divertimento ce matin. Bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Alors, bonjour à nos auditeurs fidèles. Et puis, on va un petit peu parler. Oh, là, il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé des grandes orgues de Notre-Dame.
C'est vrai.
Et ce matin, ben, on va réduire la taille.
Ah.
On garde le même orgue et on ajoute de Barbarie.
Très bien.
Voilà. Alors, il existe sous une grande variété de formes, des plus petits que l'on peut porter en bandoulière, comme l'orgue de Barbarie portatif. C'est un attribut traditionnel des chanteurs des rues et de l'armée du salut pour prêcher dans les rues au début du XXe siècle aux plus grands, appelés limonaires, qui sont eux fixes et affectés à des grandes salles de bal, à des cafés, mais parfois aussi à des églises. Et une large gamme intermédiaire d'orgues mobiles portés par exemple sur des charrettes ou bien attelés à des voitures jusqu'aux orgues qui accompagnaient traditionnellement les manèges des forains. Les qualités musicales, ben bien sûr, l'étendue des registres sont naturellement très très variables. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi on l'appelle orgue de Barbarie ? Eh bien, cette appellation viendrait de sa sonorité moins noble que les orgues d'église ou de l'origine exotique des joueurs de rue. Les joueurs du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle baragouinaient un français approximatif. Alors, vous voyez, de là, on a dit barbare, barbarie, voilà. D'autres hypothèses, plus ou moins fantaisistes, ont été avancées. Des formations d'orgue de Barbarie, d'un nom d'un fabricant italien de Modène, Giovanni Barberi, au début du XVIIIe siècle. Répandues, mais fausses, dit-on. Alors, vous voyez. Puis après, il y a aussi l'orgue de John Burberry, inventeur anglais imaginaire, une légende racontée et répandue par Alain Vian, le frère de Boris, qui tenait un magasin d'instruments de musique mécanique au quartier de l'Odéon à Paris, selon laquelle le comte de Burberry aurait eu l'idée de l'orgue de Barbarie en voyant, écoutez bien, un hérisson frotter ses épines sur une harpe. En fait, pour les figues et les canards dits de Barbarie, la figue de Barbarie et le canard de Barbarie, eh bien, l'explication est la plus simple. Eh bien, c'est qu'on veut que cette origine vienne du mot barbare au sens étranger. Alors, on va faire, maintenant qu'on a fait une petite entrée en matière, on va peut-être l'écouter, Christian.
Eh bien, on va commencer avec Édith Piaf et les orgues de Barbarie.
Les orgues de Barbarie qui chantaient dans les rues ont chanté leurs amours et puis ont disparu. Seul entre ces deux murs, une ruelle obscure va glissant dans le noir retrouver son boulevard. Une tendre chanson qui n'est pas née d'hier fait revivre un instant tous ceux-là qui s'aimèrent. Un, deux, trois petits tours, les orgues de Barbarie connaissent bien la magie des vieilles rues de Paris. Les orgues de Barbarie, ce n'est pas les grandes orgues, mais leurs refrains rouillés savent si bien chanter. Tourne la manivelle des morceaux de chansons à l'ombre des ruelles, joue les belles partitions, tandis qu'elle s'égosille au milieu du boulevard, que des garçons et des filles dansent sur le trottoir. Un, deux, trois petits tours, les orgues de Barbarie, c'est une symphonie pour les rues de Paris. Et les orgues de Barbarie ont perdu leur musique à force de tourner dans les rues de Paris. Les années ont passé, les refrains ont vieilli, mais les orgues du passé hantent souvent la nuit. Parfois deux amoureux, quand ils s'aiment très fort, peuvent les entendre encore jouer rien que pour eux. Un, deux, trois petits tours, orgue de barbarie, je vous entends toujours dans les rues de Paris. Un, deux, trois petits tours, un, deux, trois petits tours.
Des fois on dit, tiens, la langue française est un peu complexe. Eh bien, je crois que là on a un exemple. Le nom orgue est masculin au singulier et au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs instruments distincts. Il peut être utilisé au féminin, pluriel, lorsqu'il s'agit d'un seul instrument. Exemple, vous allez voir. Les grandes orgues de France, là, il y a plusieurs instruments. Le grand orgue de Notre-Dame, ou les grandes orgues de Notre-Dame, un seul instrument. Son histoire, eh bien, le plus ancien orgue de Barbarie fonctionnant encore aujourd'hui est celui du château de Salzbourg, fabriqué en 1502. Alors vous allez me dire, combien ça fonctionne? Alors je ne vais pas me lancer dans des choses très très compliquées, je vais essayer d'être assez simple. L'orgue de Barbarie se compose schématiquement d'une manivelle qui actionne un système de soufflet, c'est-à-dire des pompes pour produire l'air comprimé et une réserve pour réguler la pression. D'une boîte à vent, c'est ainsi que l'on l'appelle, d'un ensemble de mécanismes destinés à amener le vent jusqu'aux organes qui produisent le son dans les tuyaux, ou on appelle aussi hanches. Alors, c'est comme ça, je ne vais pas vous faire le descriptif de tout l'instrument, parce que je sais que vous êtes quand même savant et que vous connaissez pas mal de choses. Alors moi, il y a plusieurs systèmes qui ont été utilisés pour produire la musique mécanique, l'essentiel étant le support de la mélodie programmée. Pendant longtemps, on a prédominé le cylindre, alors garni de picots ou taquets ou chevilles en relief. Ça, c'est chaque picot déclenche en temps voulu l'ouverture d'un tuyau correspondant. On a aussi utilisé le disque à picot, fonctionnant sur le même principe, le disque perforé, où à chaque perforation permet l'ouverture du mécanisme. On en est venu au carton, vous savez, ce que l'on voit le plus, on a vu au cinéma, dans des films, aussi quelquefois dans les rues, on en est venu au carton perforé, attachés les uns aux autres et se repliant en zigzag, qui n'ont plus de limite de longueur. On trouve aussi du papier perforé sous forme de rouleau réservé à de tout petits modèles, pour beaucoup d'orgues et surtout pour les grands modèles de salon qui pouvaient, jusqu'au XXe siècle, remplacer un orchestre de bal. On a adopté un entraînement électrique. Alors, était-il électrique le prochain morceau, Christian?
Très bonne question, mais voilà, les oreilles averties le détecteront peut-être. Nous écoutons Le Temps des Cerises. Thank you.
Actuellement, des spécialistes que l'on nomme des noteurs fabriquent encore les cartons perforés, activité qui demande une bonne connaissance de la musique pour le travail d'arrangement de la musique à la tessiture de l'orgue. Anciennement, la perforation était manuelle et donc fastidieuse. Aujourd'hui, les noteurs ont recours à des programmes de musique assistés par ordinateur pour produire des fichiers que l'on appelle MIDI. Alors, les fichiers MIDI pilotent alors d'une perforatrice commandée par informatique sur les mêmes principes du CNC qu'une imprimante, dont on a remplacé le jet d'encre par un poinçon à une matrice. Les cartons, ces cartons commandent par l'intermédiaire des soupapes l'ouverture et la fermeture des notes. La qualité sonore reste dépendante de l'air passant dans les tuyaux, éventuellement accompagnée de percussions mécaniques qui produisent le son d'un instrument réel et non de la synthèse électronique. On va écouter un autre petit morceau parce que ça fait du bien à la musique.
Eh bien, nous poursuivons avec Mon amant de Saint-Jean.
Thank you.
Les plus petits peuvent être portés en bandoulière. Les plus gros atteignent la taille de camions et sont de véritables chefs-d'œuvre de lutherie. Ils comportent quelquefois des objets animés, comme des automates, représentant quelquefois des musiciens qui bougent au rythme de la musique. La sorinette, elle est l'ancêtre des orgues de Barbarie. Elle était, écoutez bien, destinée à apprendre aux oiseaux, notamment les serins venant principalement des îles Canaries, à siffler de courts airs à la mode. Alors aujourd'hui, me direz-vous, qu'est-ce que sont devenus les orgues de Barbarie? L'utilisation de l'orgue de Barbarie est très fréquente en Écosse, notamment à Édimbourg, surtout pendant le grand festival du mois d'août. Et puis aussi, on le retrouve dans certaines contrées d'Allemagne et aux Pays-Bas. En France, le renouveau de l'orgue de Barbarie est réel depuis une quarantaine d'années. De nombreux festivals sont organisés, dont les plus célèbres sont à Bonne Encontre, à Gap, à Arpajon, à Permes-les-Fontaines et puis bien d'autres endroits encore, qui regroupent des dizaines de tourneurs, ce qu'on appelle le tourneur, c'est le joueur d'orgue, venus de toute l'Europe. Les bourses d'échange permettent de rencontrer aussi des amateurs de musique, de musique mécanique. On en trouve aussi à Mirecourt et à Noiselville. Les tourneurs utilisent les orgues récents, celles qu'on appelle à flûte. Le son est mis par des flûtes de bois ou des hanches. Le son est devenu métallique. Des ateliers spécialisés dans la restauration et la fabrication de ces instruments ont renouvelé les modèles et ont adapté à la musique contemporaine les morceaux que l'on jouait autrefois. Alors, l'orgue de Barbarie, vous savez, Monsieur Jacques Prévert a fait un magnifique poème sur justement les orgues de Barbarie. Mais nous, on ne va pas écouter le poème, on va écouter le dernier morceau de musique avant de se dire au revoir.
Eh bien, il s'agit de « Sous les ponts de Paris ». Thank you.
Alors, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir, Christian, parce que je crois que le temps qui nous est imparti est terminé. Absolument. On va simplement leur dire, comme vous le faites si bien lorsque vous terminez votre journal, prenez bien soin de vous.
Eh oui, il faut surtout par ces températures un peu excessives.
Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Christian, de nous avoir accompagnés.
Je vous en prie, à la semaine prochaine. Thank you.